Marathon, retour sur un drôle de phénomène. Le dimanche 27 avril, ils étaient plus de 21 000 engagés dans les différentes épreuves du marathon de Nantes. Ce matin-là, le long d'un parcours qui sillonne les rues du centre-ville et alentour, des milliers de spectateurs, venus encourager des collègues, des parents, des amis, héros du jour. L'ambiance est chaleureuse, mais dans le peloton, au fil des kilomètres, les visages se crispent. Les sourires se fichent en rictus de souffrance. Les jambes se font lourdes. Du bruit des pieds qui martèlent le sol monte le cri sourd d'articulations en flammes. On souffre. À l'arrière des groupes de tête où s'affrontent les professionnels de la course mythique, la compétition apparaît d'intensité plutôt faible. On s'encourage, difficile de dire que l'on s'entraide. Et puis, plus les kilomètres défilent, plus les acteurs semblent seuls, isolés, comme en quête d'oubli. Le mieux, n'est-ce pas encore d'oublier comme c'est long, 42 km 500, d'oublier que l'on a une plaie au pied, la voûte plantaire qui s'échauffe, une petite gêne au genou qui s'est installée doucement et que l'on n'arrive plus à ignorer. Le mieux, c'est de pouvoir encore s'évader d'un corps qui veut nous emprisonner dans ses maux qui menacent de nous faire renoncer au défi. Pris dans les filets d'un parcours qui contraint mes déplacements habituels, j'observe, j'écoute et je m'interroge. Parce que, chaque fois, la même question revient. Après quoi court-on ? De toute évidence, hormis les professionnels de la course, le gros de la troupe ne vise pas la victoire, pas plus que la gloire, à peine une distinction, vu le nombre d'hommes et de femmes qui s'ébrouent chaque semaine sur les parcours les plus délirants. Le marathon s'est banalisé. Démocratisé, diront certains. Et les quêteurs de dépassements et de distinctions s'engagent aujourd'hui sur ces épreuves plus folles que représentent les trails aux distances et dénivelés ahurissants. Court-on après le mythe ou court-on pour se prouver à soi-même que l'on est capable de faire des choses folles, de se dépasser, d'aller au bout de soi-même? Court-on pour le plaisir? Toutes ces réponses, souvent avancées par les athlètes, véhiculées et relayées par les médias, mais aussi validées dans bien des cercles de discussion où l'on ne cherche pas nécessairement à approfondir le conflit, mais plutôt comme un consensus de façade, ne me semblent pas tout à fait à la hauteur du phénomène. Et si l'on courait dans le vide? Voilà une autre hypothèse qui ne fera certainement pas consensus, peu importe. Courir le marathon apparaît certes pour beaucoup de personnes comme un prolongement, voire l'aboutissement de toutes ces courses accumulées au cours des semaines, des mois et des ans, sur les bords de la rivière, le long des routes, des chemins. L'air de rien, dans une ambiance, nous le disions, a priori peu compétitive si l'on accepte la tête de course, chacun vient concrétiser son entraînement, sa préparation sur le marathon, pour disparaître dans les profondeurs d'un classement où il vérifiera que son nom est associé à une place et à un temps de durée. J'ai entendu à plusieurs reprises des individus souligner l'importance de la dimension collective de l'événement, et c'est vrai qu'il y a du monde, beaucoup de monde. Mais si l'émotion provoquée par le grand nombre de personnes rassemblées peut être intense, excitant la sensation de participer à quelque grand événement, n'en oublions pas pour autant que l'événement se conclut en un classement par lequel il prend tout son sens. Et mieux, par lequel les centaines d'heures de course nécessaires pour se préparer à l'événement prennent elles aussi leur sens. Et si l'on courait dans le vide? Car si les plus belles envolées collectives s'échouent sur un temps performance, que la qualité de ce temps n'est que souffrances accumulées, nous pouvons justement penser que ces courses sont à l'image de notre temps lorsque nous nous employons à travailler pour produire toujours plus de richesses indépendamment de ce que ces richesses peuvent signifier. Là, hommes et femmes semblent souffrir et s'offrir aux dieux de la performance de leur plein gré, dans un grand élan collectif qui ne poursuit pourtant pas d'autre finalité que le vide du temps chronométrique. Mais le sport n'est-il pas le plus grand pourvoyeur de ces élans individuels et collectifs qui ne mènent à rien d'autre qu'à devoir progresser dans le vide, et ce jusqu'à en mourir, rien que pour se sentir vivant ? Le sport ne nous offre-t-il pas cette grande simplification, nous épargnant du même coup de réfléchir à ce qui nous fait courir tout autant qu'aux conséquences de notre course? Il apparaît ainsi comme le meilleur pourvoyeur, avec le business peut-être, du refus de la complexité. Jusque dans l'effort extrême, déclarait ainsi Jacques Arduano en 1997, qui reste simple, intense, mais intellectuellement simple. durer, vaincre, tuer. Lors du cortège du 1er mai, jeudi matin, je remarque un vieil homme qui regarde les manifestants avec une attention soutenue. Visiblement ému, l'ancien se met à frapper dans ses mains. Je me prends à imaginer alors ce qui sépare les deux événements, le défilé du 1er mai du marathon de Nantes. Le sens de l'effort, du collectif, du progrès, du courage, de la résistance à l'effort, de la souffrance, de la douleur, des mots. Le sens des mots, tout simplement. Un monde, donc, et rien que ça.